monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Abdourahmane Diaye, Claire Morin-Gibourg avec vous en direct du studio 9 de La Voix de l'Amérique à Washington. Bienvenue dans le monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir.
Nouvelle violence dans l'ouest de la Centrafrique alors que des pourparlers de paix s'ouvrent jeudi à Khartoum.
La prestation de serment du président élu de la RDC, Félix Tshisekedi, aura lieu jeudi. L'Union africaine et l'Union européenne se disent prêtes à travailler avec lui.
Au Nigeria, le mouvement Bring Back Our Girls demande aux candidats à la présidentielle de ne pas oublier les filles de Chibok.
Nous marchons parce qu'il y a presque 5 ans que les filles de Chibok ont été enlevées dans leur école.
Et puis ici aux États-Unis, le Sénat et la Chambre des représentants vont introduire des projets de loi pour tenter de mettre fin au shutdown.
Également, dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports. Mais tout d'abord, le journal.
En République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, le nouveau président élu, sera investi le jeudi 24 janvier 2019 à Kinshasa. La présidence de la RDC a confirmé cette date. De nombreux chefs d'État et de gouvernement sont attendus pour la cérémonie de prestation de serment. Nous faisons le point avec Thierry Kamundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Une quinzaine de chefs d'État sont invités à cette historique cérémonie d'investiture du nouveau président de la République. C'est en effet pour la toute première fois dans l'histoire de la RDC que va se faire une passation pacifique et civilisée du pouvoir entre un président de la République sortant et un entrant. 18 ans après son avènement à la tête de la RDC, Joseph Kabila, arrivé fin mandat, va donc céder le fauteuil de président à Félix Tshisekedi, déclaré par la Commission électorale nationale indépendante vainqueur de la présidentielle du 30 décembre dernier, puis confirmé par la Cour constitutionnelle. Il deviendra le 5e président de l'histoire de la RDC derrière Kassavubu, Mobutu et Kabila père et fils. Après les messages de félicitations de la SADC, de l'Afrique du Sud, de la Tanzanie, de l'Angola et récemment de l'Égypte, l'Union européenne a pris acte ce mardi de la proclamation par la Cour constitutionnelle de Félix Tshisekedi comme président de la République et lui recommande d'être un président rassembleur. L'Union africaine, pour sa part, se dit aussi, je cite, « prête en tant que commission à travailler avec le président Tshisekedi pour continuer notamment à pacifier le pays, mais également à promouvoir le développement de la RDC ». Fin de citation. Kinshasa. Thierry Kamboudi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
République centrafricaine, alors que les premières délégations pour le dialogue de Khartoum ont quitté Bangui ce mardi, des violences ont été signalées dans l'ouest du pays. 14 personnes ont été tuées dimanche par des hommes armés dans le village de Zaouro-Sangou. De Bangui, la correspondance de Freeman Sipila.
La première délégation qui a quitté Bangui dans la matinée était composée des principaux leaders des groupes armés, dont Abdoulaye Hissène, le chef militaire du FPRC, le Front Populaire pour la Renaissance de Centrafrique. Le FPRC est le principal mouvement armé qui contrôle plusieurs régions du nord-est de Centrafrique et est hostile au processus de désarmement. La délégation de certaines organisations politiques et de la société civile a quitté dans l'après-midi à destination de Khartoum. En effet, la capitale soudanaise abritera à partir du 24 janvier les pourparlers entre le gouvernement centrafricain et les 14 groupes armés du pays pour une sortie de crise. Un dialogue organisé par l'Union africaine avec l'appui de l'ONU. Alors que les yeux sont braqués sur Khartoum, 14 personnes ont été tuées dimanche par des rebelles des 3R, dont le village Zaouro-Sangou, localité située à 45 km de Karno dans l'ouest du pays. En guise de représailles, des hommes armés se présentant comme des anti-balakas ont attaqué dans la nuit de lundi à mardi certains membres de la communauté musulmane dans la ville de Karno, pillant leurs maisons et commerces. Agression dénoncée par les autorités locales qui appellent Bangui à renforcer le dispositif sécuritaire dans la région. Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
Un ancien officier des services secrets slovaques, réclamé par son pays, a été enlevé à son domicile privé de Bamako. La Slovaquie, qui a rouvert en 2017 l'enquête sur l'enlèvement en 1995, jamais élucidé, du fils du président de l'époque, Michel Kovac, retrouvé en Autriche voisine, a demandé en vain l'extradition de cet officier au Mali où il réside.
Au Nigeria, une bousculade lors d'un meeting du président Muhammadu Buhari en lice pour sa réélection a fait plusieurs blessés à Maïdougouri, la capitale de l'État du Borno. Avant l'accident, le président Bouhari a déclaré que sa priorité restait l'amélioration de la sécurité, le développement et la lutte contre la corruption. Nous reviendrons sur la campagne électorale au Nigeria dans notre partie magazine.
Par ailleurs, un tribunal nigérian a ordonné qu'un responsable chiite incarcéré depuis 3 ans puisse rencontrer ses médecins personnels en raison de la dégradation de son état de santé. Ibrahim Zakzaki, leader du mouvement islamiste du Nigeria, est emprisonné avec son épouse depuis décembre 2015 après des manifestations violentes où près de 300 chiites ont été tués.
Environ 6000 Nigérians ont traversé le lac Tchad en pirogue pour se réfugier au Tchad depuis l'attaque d'une faction de Boko Haram contre la ville de Baga, près de la frontière. Le point avec John Linden.
Selon l'OHCR, depuis le 26 décembre, suite aux affrontements entre les forces gouvernementales et des groupes armés à Baga, environ 6000 réfugiés ont fui. Nombre d'entre eux ont traversé le lac en pirogue pour rejoindre le village tchadien d'Ngoubois sur les rives du lac Tchad. Début janvier, les Nations Unies avaient déjà annoncé que plus de 30 000 personnes avaient trouvé refuge à Maïdougouri, capitale de l'État du Borno, à la suite d'une recrudescence des combats. La grande majorité venait également de Baga, où les combats entre la faction de Boko Haram affiliée au groupe de l'État islamique et l'armée font rage depuis le 26 décembre. L'armée nigériane, qui a perdu des dizaines, voire des centaines de soldats ces 6 derniers mois, a affirmé avoir repris le contrôle de cette ville le 10 janvier. Le nord-est du Nigeria connaît une recrudescence d'attaques alors que le pays organise une élection présidentielle le 14 février prochain. Depuis 2009, ce conflit a fait plus de 27 000 morts et plus de 1,7 million de déplacés.
Au Soudan, la police a de nouveau dispersé des manifestants anti-gouvernementaux à Omdurman, la ville jumelle de Khartoum. De nouvelles manifestations nocturnes sont prévues cette nuit dans cette ville et à Khartoum également, plus d'un mois après le début de la contestation contre la hausse du prix du pain. La répression a fait 26 morts depuis décembre.
L'Éthiopie a annoncé qu'elle allait accorder une amnistie à plus de 13 000 personnes dans le cadre d'un programme de réforme du Premier ministre Abiy Ahmed. En juillet dernier, le Parlement avait adopté une loi permettant aux personnes reconnues coupables de trahison, crimes contre l'ordre constitutionnel et lutte armée de présenter une demande d'amnistie.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, le shutdown entre dans son 2e mois alors qu'aucune solution n'est perceptible pour mettre un terme à la fermeture partielle des administrations faute de financement du Congrès. Nathalie Barge.
Depuis le 22 décembre, une partie du gouvernement fédéral est paralysée par un bras de fer entre les démocrates au Congrès et la Maison-Blanche sur le financement d'un mur à la frontière avec le Mexique. Aucune solution immédiate n'apparaît au Congrès, qui reprend ce mardi ses activités après un jour férié, chacun se renvoyant la balle. Sans mur, notre pays n'aura jamais de frontières ou de sécurité nationale, a assuré Donald Trump ce matin sur Twitter, accusant les démocrates de jouer à des jeux politiques. En fin de compte, on doit faire les choses correctement. Ne cédons pas, a-t-il lancé, saluant l'unité du camp républicain sur la question. La chef de la majorité démocrate à la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a répliqué en accusant le président et les républicains au Sénat de prendre les Américains en otage.
Le président américain a justifié ce mardi la fin du briefing quotidien à la Maison-Blanche en invoquant ce qu'il estime être la malhonnêteté de la majorité des journalistes à son égard. La raison pour laquelle Sarah Sanders ne va plus au podium est que la presse la traite de façon très impolie et que la couverture est biaisée de la part de certains membres de la presse, a tweeté Donald Trump.
L'ex-premier ministre Yulia Tymoshenko a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle du 31 mars en Ukraine. L'icône des révolutions de 2004 et 2014 est la favorite face au président sortant, Petro Poroshenko, selon les derniers sondages.
En Syrie, une personne est décédée dans l'explosion d'une voiture piégée à Latakié, l'un des principaux fiefs du régime de Bachar el-Assad dans le nord-ouest du pays.
En Israël, un Palestinien a été tué à Gaza par un tir de char de l'armée israélienne positionnée de l'autre côté de la frontière. L'armée a affirmé avoir répliqué à des tirs palestiniens. Dans un autre registre, l'autorité palestinienne a annoncé qu'elle allait refuser à partir de fin janvier les aides que le gouvernement américain lui fournit encore afin de ne pas s'exposer à des plaintes aux États-Unis pour financement du terrorisme.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco, présentée ce soir par Nanit Talani.
Le Cameroun projette d'émettre des titres publics pour 45 milliards de francs CFA sur le marché de la BEAC au cours de ce premier trimestre 2019. Selon le calendrier indicatif des opérations, 15 milliards de francs CFA seront mobilisés chaque mois au moyen des émissions de bons du Trésor. Une première action a déjà eu lieu le 16 janvier 2019 pour 7 milliards de francs CFA. Cette opération a été souscrite à 317%, ce qui est de bon augure pour la deuxième émission prévue demain pour une nouvelle enveloppe de 7 milliards de francs CFA, selon le journal Investir au Cameroun. La société sud-africaine MTN a déboursé 53 millions de dollars pour régler un différend relatif à un virement de fonds avec la Banque centrale du Nigeria. Cette institution bancaire avait ordonné à MTN et à ses prêteurs de restituer un total de 8,1 milliards de dollars qui auraient été rapatriés illégalement par la société entre 2007 et 2018 en utilisant des documents indûment délivrés. Terminons avec le Niger, grand producteur d'uranium, qui annonce vouloir reprendre sa place au sein de l'initiative pour la transparence des industries extractives ITIE, dont il s'était retiré en novembre 2017 après avoir été suspendu par cette organisation. Les autorités nigériennes affirment que la suspension de leur pays de l'ITIE était consécutive à un malentendu qui est à présent dissipé grâce à un dialogue constructif, franc et direct avec les responsables de cette structure.
On passe au sport avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
Cyclisme au Gabon pour commencer. L'homme fort du début de la tropicale Amissa Bongo s'appelle Nicolo Bonifacio.
Oui, deux étapes et deux victoires pour Bonifacio. Après la première étape enlevée hier, l'Italien a encore remporté aujourd'hui l'acte 2 du Tour international cycliste du Gabon. Nicolo Bonifacio s'est imposé au sprint entre Franceville et Okondja, 170 km, la plus longue étape de cette édition, devant André Greipel et le Rwandais Bonaventure Uweyezimana. Au classement général, Bonifacio garde le maillot jaune. Il devance l'Érythréen Sirak Tesfom et Greipel est désormais troisième. Demain, la troisième étape amènera le peloton de l'Océani à Franceville.
Football, Boateng est le 14e Africain de l'histoire de Barcelone.
Oui, le FC Barcelone a accueilli Kevin Prince Boateng sous la forme d'un prêt de 6 mois avec option d'achat de 8 millions d'euros. C'est la première fois que le club catalan disposera d'un joueur ghanéen. Sur le site officiel, les Blaugrana précisent en revanche qu'il s'agit du 14e joueur d'origine africaine qui portera les couleurs barcelonaises. A noter que le Barça prend en compte tous les joueurs nés en Afrique et pas uniquement ceux qui ont décidé de défendre les couleurs d'une sélection africaine. Le Sénégalais Moussa Wagé, qui évolue actuellement avec la réserve, ne figure pas dans cette liste car il n'a pas encore joué avec l'équipe première.
Ronaldo condamné à une amende pour fraude fiscale.
Et oui, la star planétaire du Ballon rond a été condamnée par la justice espagnole pour fraude fiscale à une peine de 2 ans de prison qu'il n'aura pas à purger et à une lourde sanction financière. Les 2 ans de prison ont été commués en amende de 365 000 euros. Le juge du tribunal madrilène a en outre imposé une sanction financière d'environ 3,2 millions d'euros à l'attaquant portugais Cristiano Ronaldo, transféré l'été dernier du Real Madrid à la Juventus Turin.
Triste nouvelle pour finir avec la disparition de Salah, son club dit garder l'espoir.
Oui, le FC Nantes et sa direction ont déclaré garder espoir que leur ancien attaquant, disparu hier en avion lors d'un vol privé pour Cardiff au Pays de Galles, où il venait d'être transféré, soit retrouvé sain et sauf. L'avant-centre italo-argentin, qui avait signé samedi pour 3 ans et demi pour le club gallois de Première Ligue, était passé hier au centre d'entraînement de la Gélinière pour prendre ses dernières affaires. Emiliano Sala devait ensuite se rendre en avion de Nantes à Cardiff pour participer à son premier entraînement sous ses nouvelles couleurs, mais l'appareil a disparu des radars. Les recherches n'ont pour le moment donné aucun résultat.
Merci Yacouba.
Yeah,
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com avec Abdourahmane Dia et Claire Moingebourg. On passe maintenant au dossier du jour.
À presque deux semaines de l'ouverture de la campagne électorale au Sénégal, l'opposition réunie au sein du C25, le collectif des 25, et cette opposition a voulu montrer son unité. Elle clame vouloir faire face au pouvoir, au président Macky Sall, candidat à sa propre succession. Elle exige une présidentielle libre et transparente. L'opposition sénégalaise sera-t-elle capable de s'unir pour ces élections? C'est la question que Raïssa Girondin a posée à Mouni Roussi, professeur à l'université de Thiès et conseiller du Premier ministre.
Cette opposition est une opposition fantaisiste parce que réunissant des oxymores, donc des éléments contraires, certains ont même été avec le président Macky Sall pour écarter le président Wade. Étant, je dirais, certains démissionnaires, d'autres ont été simplement limogés. Naturellement, se sont réunis avec ceux-là même qui étaient au pouvoir avant le régime Macky Sall.
Vous parlez d'une opposition divisée, mais est-ce que vous pensez que les candidats actuels de l'opposition validée et invalidée ont la capacité de s'unir pour soutenir un candidat commun?
Mais pour cela, il faut qu'ils soient d'accord d'abord sur leur programme, ce qu'ils n'ont pas. Depuis 5 ans, en s'opposant frontalement au régime en place, leur seul programme, c'est Macky Sall dégage. Ce n'est pas ce que le peuple attend d'un leader politique. Un leader doit avoir un programme basé sur une vision. Malheureusement, aucun d'entre eux n'a pu exhiber ça. Il dit que c'était autoproclamé 4e président de la République du Sénégal, c'est-à-dire à la place de Macky Sall. Malheureusement, il ne l'a pas été. Donc son rêve, c'est d'être le 5e. D'autres également étaient des dissidents du Parti démocratique sénégalais. Je parle de Modi Kenyan, qui est le 5e. Et du coup, veut également remplacer et prendre la place d'Abdoulaye Wade, qui est son mentor. Le pur, avec cette coalition d'une frange de la confrérie Tijane, c'est-à-dire les Moustarchidines, va également remplacer Macky Sall. Chacun, en ce qui le concerne, vise le fauteuil présidentiel. Elles ne sont pas dans une logique pour propulser un d'entre eux.
Ousmane Sonko fait quand même beaucoup parler de lui. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ce candidat à la présidentielle, le leader du PASTEF?
Oui, le leader du PASTEF joue sur ce que j'appelle le terrain de prédilection des jeunes, c'est les réseaux sociaux. Or, quand on regarde la population électorale, ce qu'on appelle le peuple électoral, le peuple concret, ce dernier est constitué des moins jeunes. Et ce n'est pas tous les jeunes également qui adhèrent à PASTEF. Malheureusement, ils ont une politique de matraquage dans les réseaux sociaux, exhibant des assertions, des propos que la réalité dément chaque jour que le bon Dieu fait. Donc cette jeunesse, naturellement, étant dans les réseaux sociaux, adhère de manière curieuse au candidat Ousmane Sonko. Mais, encore une fois, les réseaux sociaux représentent 2% de l'électorat sénégalais.
Est-ce que vous pensez que les contestations de l'opposition, elles pourraient avoir un écho, selon vous, au sein de la population?
Un écho, les gens écoutent, naturellement. Mais est-ce qu'il y aura une adhésion? C'est la grande question. Parce que n'oublions pas que Macky Sall, du point de vue social, a abattu un travail extraordinaire.
Est-ce que vous pensez que les jeux sont faits?
Non, les jeux ne sont jamais faits en amont. Mais on a espoir que ce qu'il a fait sera sanctionné positivement par les populations, les électeurs. En matière d'élection, on ne doit jamais dormir sur ses propres lauriers.
C'était Mouni Roussi, conseiller du Premier ministre et professeur à l'université de Thiès. Il était joint à Dakar.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar, au Sénégal, 24h sur 24.
À moins d'un mois de la présidentielle au Nigeria, le groupe Bring Back Our Girls a organisé une marche de protestation ce matin à Abuja pour mettre la pression sur les autorités fédérales pour la libération des 112 filles de Chibok, toujours entre les mains des terroristes de Boko Haram. La marche d'aujourd'hui intervient en pleine campagne électorale. Le reportage de notre correspondant à Abuja, Gilbert Tomba.
Mr. President,
ask now.
We want answers.
Oh, yes.
Monsieur le Président, nous ne voulons plus d'excuses. Monsieur le Président, agis maintenant. Monsieur le Président, nous voulons des résultats. Ce sont quelques slogans de la marche pacifique du groupe Bring Back Our Girls à Abuja. Ils étaient plusieurs dizaines, la majorité en provenance du Nord-Est, à être venus réclamer la libération des 112 filles de Chibok, encore portées disparues. Edith Yassine est membre du groupe Bring Back Our Girls.
Nous marchons parce qu'il y a presque 5 ans que les filles de Chibok ont été enlevées dans leur école. Après cette tragédie, ce gouvernement a promis de faire libérer toutes les filles après son arrivée au pouvoir et de mettre fin aux enlèvements. Mais sous cette administration, il y a eu le kidnapping de Dapchi et 112 filles de Chibok restent toujours détenues et le gouvernement ne dit rien.
Durant les 4 années écoulées, le groupe est resté au devant de la scène, organisant des manifestations de rue pour la libération des filles enlevées à Chibok en avril 2014. Obosso Arbarika est originaire de Chibok. Il se rappelle encore des circonstances de l'enlèvement des filles de Chibok et aujourd'hui, il vit dans un camp de déplacés.
J'ai quitté Maïdougouri pour venir protester contre ce qui est arrivé aux filles de Chibok et au village de Chibok en général. C'est un incident malheureux. Ils ont détruit toutes les écoles. Aujourd'hui, il n'existe aucune école secondaire dans notre communauté. Toutes les écoles ont été brûlées et certains de nos habitants ont été tués. Donc, nous ne sommes pas contents de ce qui se passe.
L'armée nigériane affirme avoir affaibli techniquement Boko Haram, mais la situation sur le terrain est encore loin de satisfaire les populations de la région, comme nous le dit Mohamed Oumarou, qui vit désormais dans un camp de déplacés à la périphérie d'Abuja.
Nous vivons une expérience difficile avec les terroristes de Boko Haram. Ils nous pourchassent tous les jours et détruisent notre région. Ils tuent tout le monde là-bas. C'est pourquoi nous avons fui pour venir rester à Abuja. Nous n'avons rien d'autre à dire. Nous voulons juste retrouver nos filles.
Sur les 276 lycéennes enlevées, 57 parviennent à s'enfuir peu après le raid. 107 sont libérées en 2016 et 2017 après des négociations entre le gouvernement et Boko Haram et 112 sont toujours portées disparues. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Ne manquez pas le nouveau rendez-vous de VOA Afrique, le monde au féminin, présenté par Nathalie Barge, tous les mardis et samedis à partir de 19h TU. Le monde au féminin est une émission interactive dans laquelle on aborde sans tabou toutes les questions qui concernent et préoccupent les femmes, les filles et la jeunesse. Le monde au féminin, un espace réservé à tous, un espace qui donne la parole à celles et ceux qui osent aller de l'avant comme vous. Le monde au féminin, tous les mardis et samedis, à partir de 19h TU sur VOA Afrique.
Le Banking Money poursuit son expansion en Afrique, selon un rapport de la Banque des États de l'Afrique centrale. Le phénomène de monnaie électronique est en hausse dans la zone CEMAC. Comment fonctionne ce système à Libreville? Suivons le reportage d'Ismaël Obiang Nze.
Le marché des services financiers mobiles est en plein essor à Libreville. Agents banking ou partenariats avec les réseaux locaux de banques sont des exemples de stratégies déployées pour recruter de nouveaux clients. Omar est un opérateur de ce secteur lucratif.
Les retraits, c'est payant. Les dépôts, c'est gratuit. C'est là. Maintenant, les retraits de 100 francs à 166 670. Maintenant, à partir de 166 000, c'est 5 000 jusqu'à 500 000. Dès que j'ai mon téléphone avec moi, j'ai mon argent, je me balade avec. Avec les banques aussi, qu'il y a à tout moment où il y a des soucis aussi, là, c'est compliqué aussi.
Les clients non bancarisés ou sous-bancarisés ont depuis quelques années accès à un système de dépôt et de retrait d'argent à portée de main.
C'est du tic au tac, c'est direct. Il n'y a pas que tu envoies de l'argent, après on va te dire qu'il faut attendre demain pour que la personne reçoive. Non, c'est de là à là. Tu peux être même à l'autre bout du Gabon, il suffit qu'il y ait le réseau. C'est tout, la transaction passe.
C'est une banque en fait qui est plus rassurante dans la mesure où, quel que soit l'endroit où je me trouve, je peux faire des retraits, par exemple pour acheter des articles ou faire des petites dépenses.
Oui, en plus de réduire le temps et les frais de déplacement, les frais de transaction du Banking Money sont également moins élevés, mais selon Brice Eyinga, analyste économique, c'est la partie visible de l'iceberg.
Pour les populations, le recours à un cours non réglementé font en sorte que les populations payent des services bien plus coûteux qu'ils ne devraient payer s'il y avait de régulation. Pour l'État, c'est un manque en ce qui concerne le prélèvement des impôts et pour les banques classiques, c'est malheureusement la concurrence déloyale qu'ils subissent.
Au-delà d'autres services que fournissent le mobile monnaie, les transactions globales de monnaie électronique sont passées en valeur de 574 milliards de francs CFA en 2015 pour atteindre près de 2 000 milliards de francs CFA ces deux dernières années dans la zone CEMAC. De quoi interpeller la Banque des États de l'Afrique centrale qui travaille depuis l'année dernière sur un cadre juridique pour la supervision de cette activité. Libreville Ismaël Obianzé pour La Voix de l'Amérique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Environ 3000 leaders politiques et économiques sont réunis à la station balnéaire suisse pour débattre des tendances commerciales et économiques mondiales lors du Forum économique annuel de Davos. Les analystes craignent que les incertitudes politiques et les tensions commerciales puissent nuire à la croissance. Les groupes de défense des droits de l'homme mettent en garde contre les dangers des inégalités croissantes. Le point avec Eric Manirakiza.
Le Forum économique mondial est organisé chaque année à Davos, une station de ski dans les Alpes suisses. Sur place, l'ONG Oxfam a lancé un appel aux influents dirigeants du monde, Winnie Byanyima de l'ONG Oxfam International.
Aux gens les plus riches de la planète, les plus puissants. Et à tous les dirigeants politiques, vous devez agir pour réduire l'inégalité extrême. Parce qu'elle est incontrôlable. Nous voulons une solution pour mettre fin à cette inégalité qui s'élargit, ralentit nos économies, sape la démocratie et enferme les gens dans la pauvreté.
Klaus Schwab, fondateur du Forum de Davos, a reconnu que l'économie mondiale a laissé beaucoup de gens derrière.
À l'époque des médias sociaux, nous ne pouvons plus tolérer que des personnes soient délaissées pour compte. Nous devons créer une mondialisation plus inclusive.
La patronne du Fonds monétaire international FMI a déclaré lundi que l'économie mondiale se développe, mais à un rythme un peu plus lent.
Nous devons redoubler d'efforts pour résoudre les problèmes communs auxquels nous sommes confrontés. Qu'il s'agisse de réparer le système du commerce mondial, oui, le G20 l'a demandé et il faut le concrétiser pour lutter contre la corruption et l'évasion fiscale, s'attaquer à la menace existentielle du changement climatique.
Christine Lagarde a aussi tenté de rassurer, disant qu'il n'y avait aucune crainte de récession, mais qu'il fallait surveiller de près les tendances et corriger les vulnérabilités. Alors que les leaders mondiaux affichent leur optimisme général, une enquête réalisée avant le forum auprès de centaines de patrons d'entreprises prouve le contraire. Richard Edelman, du Conseil des relations publiques, Edelman.
La division des classes n'a jamais été aussi grande entre les élites qui pensent que le monde va très bien et la masse qui se demande de quoi demain sera fait.
L'enquête a également montré que le pessimisme des milieux d'affaires est causé par les incertitudes. Bob Moritz, du cabinet de consultants PwC Global.
Un jour, vous pensez que le Brexit va se produire et un autre jour, le contraire. Vous ne savez jamais où vont aller les choses. Aujourd'hui, nous avons des barrières commerciales en termes de conflit avec la Chine. Et le lendemain, une excellente réunion qui s'annonce.
L'enquête a aussi montré un manque de confiance grandissant envers les dirigeants publics du monde entier.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité à la mise en onde, Joselle Morissin. Et voilà, donc, restez en contact sur Facebook.